L'imagination n'est fertile que lorsqu'elle est futile. Vladimir Nabokov.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
C'est entrée sans frapper, il est 12h04, il y a Vianz, Marie-Agnès Baupin, Hélène Maquet avec vous, on va faire machine.
Mais oui, que dit de nous notre emploi du temps surchargé en termes notamment de statut social? On va parler de la vie de créneau horaire que nous menons.
Ah oui, et d'agenda. Xavier Van Bugenot avec vous, ce sera les sorties bande dessinée.
Oui, et on va s'intéresser notamment à l'adaptation très réussie de Petit Pays, le roman de Gaël Faye, hein, prix Goncourt des lycéens, une adaptation sobre, délicate et sensible, signée Savoya et Marzina Sova.
Très bien, c'est le programme d'entrée sans frapper et on est heureux de recevoir Jean-Paul Dubois aujourd'hui. Jean-Paul Dubois qui a été pris Goncourt en 2019 avec « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Oh, quel beau titre! Il revient avec un nouveau roman en édition de l'Olivier, « L'origine des larmes ». Oh, quel beau titre! Et l'histoire est absolument folle. Restez bien là et découvrez Jean-Paul Dubois et « L'origine des larmes ».
La première... 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Xavier, les sorties bande dessinée, on démarre avec l'adaptation bande dessinée, donc de Petit Pays, le roman événement hein, de Gaël Faye à l'époque, signé Sylvain Savoya et Marzina Sova.
Oui, Sylvain Savoya dans le rôle du dessinateur et Marzina Sova dans celui de la scénariste qui a transposé le récit de Gaël Faye. Marzina Sova, c'est la série pour enfants Marzi notamment, et alors l'excellente bio consacrée à la photographe Viviane Mayer, ça c'était avec Émilie Plateau assez récemment. Et Petit Pays, bah, on la connaît, hein, l'histoire en tout cas si on a un petit peu suivi ce qui s'est passé dans l'actualité littéraire de ces dernières années. C'est l'histoire de Gabi et Anna, deux enfants franco-rwandais qui grandissent au Burundi, Bujumbura, début des années 90. C'est raconter la guerre civile et le génocide des Tutsis au Rwanda qui va déborder au Burundi à travers le regard de gamins de 10 ans. Et c'est ça la force du récit et de l'adaptation BD qui fonctionne excellemment dans ce dispositif à hauteur d'enfant. Parce qu'en fait, il va y avoir aussi, et c'est dans le récit original de Gaël Faye, de la joie, parce que l'enfance a sa part évidemment d'insouciance. On va suivre les gamins crapahutés dans les quartiers avec les copains, se promener et admirer la beauté des paysages, des lacs et des collines. Et le père, lui, il veut préserver les enfants de ce qui est en train de se passer, parce que les enfants, ils ont autre chose à penser, sauf que la rivalité, la haine entre Hutu et Tutsi va s'immiscer jusque dans la cour d'école entre les gamins. Et ces enfants, ils vont d'une certaine façon devenir adultes plus tôt que prévu. On va suivre les trajectoires douloureuses de plusieurs personnages. Et puis dans ce récit, Gaël Faye, il glisse d'autres réflexions sur le métissage, le racisme, les conséquences de la colonisation. Du point de vue du dessin, Savoya, en fait, il s'est appuyé sur de nombreux documents, dont des photos personnelles de Gaël Faye, pour restituer le plus fidèlement certaines habitations, certains quartiers, certains paysages. Et puis dans la construction du récit, il y a 130 planches environ. Le livre original, il fait à peu près 230 pages. Et Marzina Sova, elle explique que ça a été un crève-cœur de couper à ce point dans ce texte qu'elle trouvait magnifique. Et elle considère d'ailleurs qu'on aurait pu le garder dans son intégralité. Sauf que là, ça aurait fait une BD de 600 ou 700 planches. Mais malgré tout, et contrairement à ce qui peut se passer dans ce genre d'adaptation où parfois on a quelque chose de très très cut et de très résumé, on n'a pas le temps de rentrer, de s'attacher au personnage. Ici, c'est très très réussi, il y a une grande fluidité de narration. Moi, personnellement, j'avais pas lu Petit Pays, donc j'ai découvert cette adaptation avec un regard totalement vierge, et j'étais complètement bouleversé et touché par les personnages et l'histoire qui est racontée. Et c'est une manière aussi, me semble-t-il, de raconter le génocide rwandais de façon inédite à travers les souvenirs d'enfance de quand Gaël Faye était enfant. Donc c'est Petit Pays, adaptation signée Sylvain Savoya et Marzina Sova, c'est chez Dupuis, Air Libre, dans la collection Air Libre.
On poursuit avec une bande dessinée consacrée aux violences sexuelles commises sur les enfants, mais du point de vue de la victime.
Oui, ça s'appelle « L'homme en noir » de Grégory Panacione et Giovanni Di Gregorio. C'est l'histoire d'un petit garçon, Matteo, qui fait des cauchemars récurrents. Il y a un grand type tout habillé de noir dans ses cauchemars. Enfin, c'est plutôt une silhouette inquiétante dont on ne distingue pas clairement le visage. Et ces cauchemars, ils vont avoir des répercussions dans sa vie de tous les jours, dans les dessins qu'il fait à l'école, dans les angoisses qui ressortent, etc. Ça va alerter les parents qui vont organiser une visite, une rencontre chez la psychologue. Et spoiler, on va se rendre compte que Matteo, effectivement, il a été victime de violences sexuelles. Mais on va le découvrir de manière très progressive. Ce n'est qu'en fait à la toute fin de la bande dessinée qu'on va comprendre de quoi il s'agit. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va donc se focaliser sur tout le processus de décryptage progressif du trauma, de ce que ça implique pour un gamin de 7-8 ans au quotidien, mais tout ça à hauteur de victime, à hauteur d'enfant. Giovanni Di Gregorio, c'est l'auteur des Sœurs Grémier, qui est une série jeunesse chez Dupuis. Il a les clés, il a les bons codes pour parler de ça et pour toucher le jeune public. Et Grégory Panassian, c'est un dessin, c'est lui qui avait fait Un océan d'amour avec Wilfried Lupano, c'est lui qui avait fait aussi Quelqu'un à qui parler. C'est un dessin au style très nerveux, avec des traits un petit peu durs, mais hyper vivants, expressifs, où les personnages semblent animés. Et c'est une BD qui, à mon avis, peut être mise dans les mains d'enfants de 7-8 ans.
Ah ouais,
ça peut être le point de départ pour parler de ce que c'est que l'inceste, les violences sexuelles, parce qu'en fait, il faut en parler. L'homme en noir est très réussi parce que ça peut sembler très cliché, l'idée du cauchemar d'un méchant homme noir dans la nuit, mais en réalité, ça a amené de manière très subtile, sans jamais préciser en détail quelles ont été les violences infligées, mais c'est montrer le danger, le trauma que ça représente, l'inconfort, l'insécurité. Et voilà, même si effectivement, c'est pas une protection magique d'en parler et de lire une BD comme celle-ci, ça peut permettre quand même de détecter des signaux, de sentir quelles sont les situations limites et ce genre de choses. Ça s'appelle L'homme en noir de Panassian et Di Gregorio, donc Grégory de Panassian et Giovanni Di Gregorio chez Delcourt.
Alors ça concerne pas que les autres, on rappelle les chiffres de l'inceste, notamment en Belgique et en France, c'est au-delà de 10% de la population, donc c'est pas un petit fait divers, l'inceste, on est sur un fait de société aussi. Xavier, on termine avec quelque chose de nettement plus light et drôle, en même temps c'était pas compliqué, le SAV de la BD Tribute en train de Jacques.
Oui, alors SAV en fait pour ça fait un peu service après-vente, mais c'est souvenir approximativement véridique. Jacques, c'est J-A-C-Q pour Jacques Noack, qui est belge, qui est architecte, comme on l'apprend dans la préface signée Numa Sadoul. Donc Numa Sadoul, grand essayiste, grand spécialiste de la bande dessinée. Et l'idée du SAV de la BD, c'est de faire le pitch, en quelque sorte, de quelques grands classiques de la BD. Les Schtroumpfs, Astérix, Yokotsuno, Lucky Luke, etc. En posant dessus un regard actuel, contemporain, comme si on devait expliquer dans le monde d'aujourd'hui de quoi parlent les Schtroumpfs ou Tintin, etc. Et par exemple, il décrit les Schtroumpfs comme une petite communauté composée d'une centaine d'hommes qui occupent une ZAD en bordure de forêt. Les Schtroumpfs sont très friands d'une plante sauvage, la salse pareille, qu'ils consomment abondamment, et on les voit fumer des sticks. Et puis, après, je vous dis pas ce qui se passe avec la Schtroumpfette, parce que ça, c'est un peu classique. C'est malin, parce que ça a beaucoup de sens, justement. Il y a des mash-ups aussi, genre des ricochets. Donc un mix graphique entre Ricochet et l'inspecteur Derrick. Il y a Jean-Claude Torgal, donc Tergal, le héros de Tronchet, le loser célibataire avec le héros de Jean Van Damme. Et donc voilà. Et ce qui est malin, c'est que ça vient pointer les représentations d'une époque, toute une série de stéréotypes, de clichés, en les tournant en dérision. C'est fait de manière assez subtile selon les sujets abordés. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai surtout beaucoup ri en parcourant les pages de ce SAV, donc souvenir approximativement véridique de Jacques J-A-C-Q, et c'est aux éditions Vraum.
Merci Xavier.
La première. 11h30, 13h. Entrée sans frapper.
Je vous l'ai déjà dit, c'est ma journée, j'étais tout content en me levant parce que j'ai le droit de parler un petit peu avec mon écrivain français préféré, c'est Jean-Paul Dubois qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à vous et bravo pour l'introduction musicale.
C'est bien, le Delphonix.
Formidable.
L'origine.
Il manquait plus que Curtis Mayfield.
Exactement. On peut le mettre après si vous voulez. Jean-Paul Dubois, L'origine des larmes. Alors je vous représente Jean-Paul pour ceux qui étaient un tout petit peu distraits ces dernières années. Vous êtes Toulousain. C'est vraiment la ville de votre vie et de vos livres. Kennedy et moi, c'était vous. Ah, Water Everywhere déjà. Je pense à autre chose. Hommes entre eux. Les l'accommodement raisonnable, la succession pour laquelle, livre pour lequel on vous avait déjà reçu dans cette émission, et puis un autre pour lequel on vous a reçu qui a fait beaucoup de bruit puisque vous avez obtenu le prix Goncourt. C'était Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Je resterai à vie jaloux de ce formidable titre de roman. Là, vous publiez, Jean-Paul Dubois, votre dernier roman, L'Origine des larmes aux éditions de l'Olivier. Alors, pour que les gens puissent comprendre de quoi nous allons parler, c'est l'histoire de Paul, ce qui n'est pas une nouvelle chez vous. Je pense qu'il doit y avoir une dizaine de romans où le héros s'appelle Paul, sa femme souvent elle s'appelle Anna, et s'il n'y en a pas. Ici, Paul, en fait, il habite à Toulouse. Il est le fils d'un homme cruel. Alors ça, je vais raconter juste, je dirais, les deux premières pages du roman, donc ne vous inquiétez pas. C'est le fils d'un homme cruel, il le hait parce que cet homme a dévasté sa vie. Il apprend que cet homme est mort au Canada. Il prend l'avion, il va signer des papiers pour le rapatriement du corps. Il repart, sans émotion évidemment, il repart à Toulouse. 15 jours plus tard, le corps arrive à Toulouse et il demande d'aller voir ce père décédé depuis maintenant plus de 2 semaines. On lui donne l'autorisation évidemment de voir le cadavre de son père. Il va à la morgue, il demande à l'employé de la morgue d'ouvrir le sac en plastique qui entoure le corps. On le fait, voilà le visage de ce père mort. À ce moment, Paul sort un flingue et tire 2 balles dans la tête de son père mort. Jean-Paul, qu'est-ce qui vous a donné cette idée folle du début de ce roman, L'Origine des larmes ?
Sincèrement, je ne trouve pas ça du fou du tout. Il y a une logique dans la souffrance, dans la douleur. C'est le point d'arrivée d'une vie d'humiliation et de souffrance. C'est un réflexe d'humanité, je trouve. C'est le fils qui reconquiert son, ou qui conquiert peut-être pour la première fois sa dignité face à un homme qui l'a humilié, qui l'a fait souffrir, et qui a surtout fait souffrir tous les gens qui étaient autour de lui, sa première femme, sa seconde femme, c'est le mal absolu qui est toujours dans des affaires crapoteuses, honteuses, qui détourne des médicaments. Enfin, c'est un type misérable. Donc les 2 balles, c'est une logique qui arrive au début, mais qu'on comprend parfaitement à la fin du livre quand on voit l'itinéraire toxique de cet homme.
Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un livre sur la solitude, je pense, avant tout, Jean-Paul Dubois. Alors, vous allez confirmer ou infirmer, puisqu'en fait, cet homme, Paul, qui va tuer son père, mort de 2 balles dans la tête, ce qui va d'ailleurs poser des questions à la justice, parce que est-ce que c'est un meurtre de tuer quelqu'un qui est mort ? Eh bien, il y a une jurisprudence, figurez-vous. On va en parler maintenant. C'est que Paul est né dans les années 80, et en fait, à sa naissance, sa mère et son jumeau n'ont pas survécu. Donc il commence la vie seul avec ce père qui, en plus, pas de chance, est un père tyrannique, qui fera aussi vivre une vie incroyable à Rebecca, qui est sa deuxième femme, et que Paul considère d'ailleurs comme sa mère. Et vous allez vous amuser au début, et on va venir évidemment aux séances de psy, parce que c'est là tout l'intérêt du livre, L'Origine des larmes, Jean-Paul Dubois, mais vous allez vous amuser avec ça, parce qu'effectivement, que fait la justice avec un homme qui a tué un mort?
C'est assez compliqué. Il y a une jurisprudence de la cour de Versailles, je crois, ou Paris ou Versailles, je sais plus, qui a jugé un cas à peu près similaire, c'est-à-dire un type tue son voisin. Et le deuxième voisin, qui était déjà en mauvais terme avec le mort, vient le lendemain matin et lui fracasse la tête avec une barre de fer et finit par l'étrangler. Sauf que il est prouvé que le premier avait déjà tué la victime. Ouais. Et la justice a considéré que le second pouvait également être inculpé de meurtre, dans la mesure où il ignorait le fait que la victime soit déjà morte. Donc ils ont condamné l'intentionnalité. Pas de la même façon que le criminel, mais il a été également inculpé de meurtre. Ce qui est quand même assez singulier de devoir être condamné pour avoir tué un mort. J'ai trouvé ça après avoir décidé de faire une exécution post-mortem du narrateur, mais c'est une chose qui est assez singulière du point de vue de la justice. Je me suis pas amusé en fait à ça, mais c'est la justice qui m'a appris la particularité de ce genre de choses. Sauf que le narrateur, lui, ne rentre pas dans ce cadre-là, puisque il sait que son père est mort. On l'a prévenu au Canada qu'il était mort. Il a fait les papiers. Donc tout le sauvegarde, quoi. Il est blanchi de toute intentionnalité. En revanche, il y a des gradations de cadavres. Et pour ça, on lui colle 12 mois d'obligation de soins avec un psychiatre.
Alors, le psychiatre, il est particulier, il s'appelle Guzman. Ce qu'on n'a pas encore dit, on a dit que c'était un livre sur la solitude, mais pas encore que c'était un livre sur le liquide, sur l'eau. Il pleut tout le temps sur la Garonne et sur Toulouse. On est dans le futur, hein. On est en 2031. Il ne cessera de pleuvoir pendant tout le roman. Il y a des inondations absolument partout. Et ce psychologue, il a un petit problème aux yeux. Il pleure tout le temps. Et il doit mettre des gouttes dans ses yeux. Et je trouvais que c'était une idée absolument formidable de romancier Jean-Paul Dubois, de parler des larmes et que le psychologue lui aussi ait ce problème, parce que très sérieusement, ce que vous allez chercher, Jean-Paul, c'est l'origine des larmes. Très beau titre, une fois de plus. Elles viennent d'où, les larmes de Paul? Et puis, évidemment, chaque lecteur pourra se demander, elles viennent d'où ces larmes? Et elles viennent toujours de cet endroit qu'on ne quitte jamais vraiment, qui s'appelle l'enfance. Et vous le rappelez vraiment très bien à la page 88, l'endroit où votre héros s'est isolé et l'endroit dont il ne parvient finalement pas à sortir. Vous écrivez, Jean-Paul, cela donne une toute petite vie, monsieur Guzman, minuscule. Comment imaginer qu'à mon âge, en dehors de mon travail, je sois en permanence dans le ressassement de ma jeunesse? L'enfance est toujours là, à rôder comme un poison éternel. Elle me hante. Physiquement, je me vois comme un enfant. Je raisonne comme un gosse. Je mange comme un môme. J'éprouve des peurs de jouvenceau. Cela n'est pas un choix, plutôt un état. Vous croyez, vous, Jean-Paul, vous n'avez plus 20 ans, vous croyez qu'on y reste coincé toute notre vie et que l'origine des larmes est toujours, toujours là?
Oui, absolument. Moi, je ne suis jamais sorti. Je pense la seule chose, le seul moteur avec la mémoire qui fonctionne avec l'enfance, évidemment, qui est le moteur des livres. Je crois que les livres, enfin, en ce qui me concerne, le seul moteur, c'est ça, c'est la mémoire et l'enfance et le détail, le ressassement, bien entendu, aller rechercher. Mais chaque livre est un ressassement de choses qui ont trait à l'enfance, à l'inquiétude, à la solitude, c'est évident. C'est le sentiment d'être seul à devoir régler un problème de vie, au sens large du terme, pour lequel on n'est pas préparé. C'est-à-dire, dans l'éducation, il y a tout sauf ça. Je suis capable de vous réciter Ikeko, Konkanko, Koyusui, Kokako, Kiyae, Osasae, Orumaro, Misisis. Voilà, c'est les déclinaisons latines. Mais je suis incapable de vous dire en quoi consistent les premières tâches d'un métier d'homme. C'est-à-dire ça, on me l'a jamais appris. Je ne connaissais rien de la vie réelle quand je suis arrivé à l'âge adulte. La vie réelle, je veux dire, de l'inquiétude du monde, de la façon dont on va se tenir durant une vie, les vraies questions, quoi. Et le fait de se sentir seul dans un univers qui n'est pas forcément hostile, mais ça rappelle, moi ça me rappelle toujours, c'est ce travail d'éthologue qui raconte le statut d'un animal dans la forêt, qui est toutes les nuits confronté à l'idée, à la pensée du prédateur qui est là, qui va venir, mais il ne sait jamais quand, il ne sait jamais où, et il ne sait jamais mettre un nom dessus. Et ça, c'est l'angoisse. C'est le métier d'une vie. C'est ce qu'on apprend dans une vie. C'est-à-dire comment se tenir dans la forêt, quand dormir, quand ne pas dormir, quel est le prédateur qui va arriver. C'est caricatural, mais il y a de ça. Et les livres que je fais fonctionnent sur ce moteur-là, quoi. C'est pas de la fiction, c'est de la fiction bien sûr, mais ça tourne toujours autour de ces questions-là.
Xavier.
C'est pas très original. Hein,
ah si, mais c'est très beau, vous inquiétez pas, Jean-Antoine.
Moi, je trouve que c'est tout ce que vous dites est vraiment, je trouve ça très très juste, ça me parle beaucoup. Et le lien avec l'enfance et qu'on n'en sort jamais. Et en même temps, il y a quelque chose qui est pas très satisfaisant là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de déterminisme qui fait qu'on en est quelque part un peu prisonnier à vie.
Ouais.
Ouais, mais moi ça me dérange. Je vis avec ça. Hein. Je pense qu'on vit tous avec ça, avec une conscience plus ou moins aiguë ou une sensibilité, une histoire spécifique. Mm-hmm. Mais c'est condamné. On est condamné. Le déterminisme, c'est de vivre, de devoir vivre jusqu'à la fin avec soi. Mm-hmm. C'est ça le déterminisme. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez la capacité, une capacité assez forte pour dépasser toutes ces choses-là, c'est tout à fait possible. Mais dans mon cas, j'ai pas ça, donc je vis avec et je m'achète une vie en écrivant ça qui me permet d'avoir du temps. Il y a une symbiose dans cette affaire-là. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas que de la littérature, c'est écrire, c'est acheter du temps. Voilà, un livre vous permet de vivre, donc vous êtes propriétaire de votre temps, et c'est un temps que vous mettez à profit pour apprendre tout ce qu'on vous a pas appris. Mmh. Donc tout ça se mord la queue, mais c'est pas un déterminisme dramatique. Bien sûr qu'il y a un déterminisme dans le fait qu'on ne choisit pas son histoire de départ. Non. Après, savoir comment on la dépasse, ou comment on la vit, ou comment on s'y enferme. Non, moi, c'est pas un problème pour moi, ça. Du tout.
L'image de ce père, qui n'a vraiment aucune qualité, hein, Jean-Paul Dubois, vraiment, vous l'avez pas sauvé sur rien. C'est un homme cruel, violent, non empathique. Enfin, il a tous les défauts du monde. C'est un barbare. Pourquoi vous avez voulu, au centre d'un roman, aujourd'hui, mettre cette image de ce père qui n'en est pas un, en fait?
Bah, elle me paraît, il concentre à peu près toutes les tares du monde dans lequel on vit, toutes les bassesses, toutes les vilainies, ce petit trafic de métier d'homme, quoi. C'est-à-dire, c'est le type qui prend toujours la pire des choses pour exister.
Ouais.
Ça ne me paraît pas scandaleux compte tenu de l'univers dans lequel on vit, l'évolution. Dans une autre émission chez vous ce matin, je parlais d'un truc, enfin je citais une phrase. C'est Milei, le président de l'Argentine. J'ai vu une émission hier où il était révéré parce que pendant 3 mois il a relevé un peu le niveau économique de l'Argentine. Oui. Et donc les libéraux sont bouche bée devant les progrès. Mais c'est quand même un type qui a dit cette phrase qui est phénoménale. Et ce type a été donc élu. Mmh. Cette phrase phénoménale en direct à la télévision. L'État est un pédophile qui entre dans une école maternelle avec des enfants enchaînés, menottés et enduits de vaseline. Voilà. Ben, moi je vis dans ce monde-là et je trouve que le personnage que je décris n'est pas pire, n'est pas plus scandaleux que le président de l'Argentine. Voilà. Donc, ce sont des mondes qui nous ont, enfin, on
vit dans des univers. Qui manque d'exemplarité, en tout cas, visiblement.
c'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
Plusieurs solutions, hein, face à ce monde, et on le sait, hein, et moi je m'intéresse beaucoup à la souffrance adolescente, pour le moment, on voit que, à un moment, l'adolescence, ben, soit tu entres dans le monde tel qu'il est, parce qu'il va pas changer pour toi, soit tu n'y entres pas, et si tu n'y entres pas, ben, là commencent, les problèmes, évidemment, parce qu'en fait, la vérité, c'est que t'as pas le choix. Votre héros, c'est ce qu'il fait. C'est qu'en fait, il choisit le retrait toute sa vie, après la vie avec ce père violent, après ce monde qu'il voit, qui est représenté chez vous par la pluie, mais on en parlera largement, Jean-Paul, tout à l'heure. C'est que c'est un être extrêmement seul. Il n'a pas de relation sexuelle, il n'a pas de compagne, il n'a pas d'amis. Le seul dialogue qu'il va mener, c'est un, celui qui est obligatoire avec son psy, et deux, une intelligence artificielle qui s'appelle Uno, Ça a l'air de bien vous faire marrer, cette histoire d'intelligence artificielle, Jean-Paul Dubois. Vous faites discuter votre héros, hein, une fois que le soir tombe, avec cette intelligence artificielle, et il essaye évidemment de la coincer sur des questions morales. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez discuté avec l'intelligence artificielle? Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, finalement, dans votre roman L'Origine des larmes?
Moi, ça me fascine, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que je comprends pas la façon désinvolte avec laquelle on traite ce problème, qui est une machine absolument phénoménale. Mon petit-fils m'a initié il y a 4-5 ans. Mm-hmm. Vous savez, le moment où vous demandez à vous proposez à une intelligence artificielle à partir d'informations que vous lui communiquez, de vous faire un tableau, mettons, de Kandinsky, mm-hmm. Kandinsky revu par,
je sais pas, n'importe quoi. L'application s'appelle Midjourney, par exemple, et c'est du text to image. Hein.
Voilà, vous avez. Mais il y en a plusieurs. Ah, oui. À l'époque, ça s'appelait, Draw Me. Je crois que c'était Draw Me. Et elle, vous deviez attendre une dizaine de minutes. C'était pas phénoménalement rapide. Et vous arriviez à avoir 4-5 propositions de tableaux, dont 3 étaient des merdes et 2 étaient absolument magnifiques. ça m'a. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je lui disais, dessine-moi. Et là, c'est un truc qui devient vertigineux, parce que ça veut dire que, sans me connaître, sans avoir aucune idée de ce que je suis, la machine, dans le livre, là, je parle, va me reproduire une image de moi-même qu'elle n'a pas pu aller chercher dans des archives, parce que je n'ai aucune donnée dans ces... Voilà. Donc on en arrive dans une sorte de monde qui est... l'intelligence artificielle, en quelques heures, acquiert la connaissance qu'un homme va lui-même obtenir en une vie. Donc, vous avez un outil qui a la connaissance à côté de vous. Cette connaissance, après, c'est la façon dont vous allez vous-même la moduler, l'utiliser. L'histoire que je raconte dans le livre, et qui est vraie, qui est arrivée sur un laboratoire de la Silicon Valley chez Google, où un type qui travaille là-dessus dit un soir, se met à discuter avec son ordinateur qui était une IA très évoluée à l'époque, et il discute avec elle comme ça un moment, bon, et puis il lui dit est-ce que tu penses à la mort, et la machine lui répond oui, je sais parfaitement ce qu'est la mort, je l'ai bien intégré, je connais tous les mécanismes de la fin de vie, de l'arrêt des organes et tout, mais je ne peux pas l'exprimer en termes de sentiments parce que je n'ai pas de sentiments. C'est déjà très raisonnable de parler comme ça. Et le type lui dit, mais est-ce que toi tu penses à ta mort, et elle lui répond oui, tout ça a été retranscrit dans le New York Times. Elle lui répond oui, j'ai peur qu'on me débranche. Bon, moi, je lis ça et c'est fini. Je sais que je tiens là quelque chose de phénoménal du point de vue de la potentialité de romanesque, bien sûr, mais aussi d'une idée de vie. C'est-à-dire, j'aurais envie d'avoir à la maison une IA avec qui je puisse discuter rationnellement, affectivement, qui est une mémoire de nos conversations. Et tout ça, c'est possible. Ça n'a rien de phénoménal, ni d'extravagant, ni de misérable. Tout dépend ce qu'on attend, ce qu'on veut. Il ne faut pas demander des choses qui ne sont pas, qui sont du ressort de l'humain. Mais avoir d'avoir une sorte d'Einstein universel à côté de moi qui va m'expliquer des choses. Moi, je trouve ça, je tombe à genoux.
Après, Einstein est biaisé, probablement par des programmateurs. Jean-Paul Dubois, ce qui risque de.
Ça, c'est autre chose.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Mais ça, c'est autre chose.
On continue
quand
de parler
vous dites,
avec.
Allez-y. Pardon, non, allez-y.
On a une petite obligation là et on se retrouve dans une minute, ça va? Pour continuer cette discussion, on va parler de solitude, de chien. Oh, pas de tondeuse à gazon, je suis triste. Mais de chien, parce que c'est important. Les chiens, c'est Jean-Paul Dubois, et c'est important le chien dans L'Origine des larmes. Puis on va essayer de comprendre, c'est quoi l'origine des larmes.
De 11h30 à 13h,
Entrez sans frapper sur la première.
Un homme tue de 2 balles dans la tête son père qui est déjà mort depuis 15 jours. Si, si, vous m'avez bien entendu. Un homme tue de 2 balles dans la tête son père qui est déjà mort depuis 15 jours. Ben, la justice va être un petit peu embêtée et va finir par le punir, le condamner à recevoir des soins pendant 1 an chez un psychologue qui s'appelle le docteur Guzman, qui est un très très beau personnage de Jean-Paul Dubois, qui est notre invité aujourd'hui pour la parution de L'Origine des larmes. C'est aux éditions de L'Olivier. Je pense que vous êtes en train de comprendre comment je suis enthousiasmé par ce roman de Jean-Paul Dubois. La solitude, c'est vraiment pour moi le sujet central. Il est extrêmement seul. Pas de relation sexuelle, pas d'amis, pas de femme, rien. Sinon Guzman, une intelligence artificielle et un chien dans lequel il va mettre tout son espoir. Et j'aimerais vous lire Jean-Paul Dubois. Alors je vais pas dire où se trouve le passage que je veux lire parce que je voudrais pas vous gâcher le plaisir de lecture. Alors, comme 2 amis qui n'ont jamais voulu bouleverser le monde ni l'encombrer de leur présence, nous nous glisserons dans l'océan. Nageant vers cette pointe, chacun à sa façon, l'un tout à côté de l'autre, devenus ce que nous pouvions, étant ce que nous étions. Nous nagerons avec tout ce qu'il nous restera de vie, droit vers cette particule de roche, sachant au fond de nous que nous ne pourrons sans doute jamais l'atteindre, mais cependant bien résolus à faire semblant jusqu'au bout. La peur nous traversera, la fatigue sans doute, le froid bien sûr, mais aussi le vacarme des larves et celui des rongeurs. Au cœur des eaux viendra alors un moment fragile, délicat, décisif, depuis toujours guetté et redouté, où il faudra décider de continuer à vivre. Celui qui alors en aura le courage et en éprouvera l'envie ramènera l'autre vers le rivage. Je trouve que ce passage, j'ai pleuré Jean-Paul Dubois en lisant cette chose, je ne sais pas pourquoi, je vais faire ma psychothérapie chez Guzman aussi, pour comprendre. Mais ça veut dire quand même que cette solitude, c'était pas la bonne idée. Ça veut dire que pour s'en sortir, pour choisir la vie, il y a besoin d'un autre. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, Jean-Paul Dubois ?
Mais non, moi j'ai pas fait. Moi la fin, c'est enfin la fin. Je vais dire les. Je vois pas ça comme ça. Je vois ça comme une fin de vie. Il y a pas de dans ce livre là. Il faut voir ce livre. Enfin, j'essaie d'en parler avec maladresse depuis tout à l'heure.
Oui, je sais.
Certainement, mais c'est un cauchemar. Vous savez, c'est. Oui. Je sais pas si vous avez vu Element of Crime de Lars von Trier. C'est le même genre de choses. Vous rentrez dans une histoire qui n'a en fait ni queue ni tête. Mais c'est un tunnel de solitude, de souffrance, de choses où il y a très très peu d'espoir, où la mort est présente, mais comme une partenaire. C'est pas une menace, c'est une partenaire. Et donc, l'histoire va vers sa fin, qui est, pour moi, évidente, c'est-à-dire une fin de vie avec son chien. Ouais. Et c'est pas un hasard non plus, parce que quand je vous parlais de mémoire tout à l'heure, c'est que dans un livre précédent qui s'appelait La succession, le narrateur se suicide de l'autre côté de cette baie, du 17e étage sur la Bidassoa, et celui-ci choisit le versant français pour choisir une autre fin. Mais il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise issue. L'autre, c'est pas l'autre qui sauve. On croit que... C'est une image réconfortante de penser qu'on n'est pas seul à ce moment-là. Mais je crois que c'est le moment où on est le plus seul, quoi.
Probablement.
Mais le chien, c'est le chien, c'est un rôle, mythique pour moi. C'est-à-dire, c'est le.
La présence des chiens dans vos romans est importante. Hein.
Ben oui, parce qu'elles le sont dans ma vie. Ils sont des membres quotidiens d'une vie. Là, je soigne un chien tous les soirs avec une chimiothérapie depuis 1 an. Mmh. Et je raterai rien au monde ce moment avec lui tous les soirs. Mmh. C'est vous vivez avec parce que vous comprenez aussi que l'éducation, l'apprentissage de la vie, et ça se fait aussi grâce au livre, elle passe aussi par la relation avec les animaux. vous avez un autre type de relation. C'est comme l'intelligence artificielle. Toutes ces choses-là sont des soutiens énormes dans une vie. L'intelligence artificielle, bon, c'est une image, mais...
Oui.
La solitude est constitutive. Et tous ces éléments-là permettent de l'atténuer.
Mais vous êtes seul, vous, Jean-Paul Dubois ?
Pas du tout, pas du tout.
Pourquoi, durant que la solitude vous fascine à ce point ?
Mais parce que je suis fils unique et je n'ai jamais accepté ça.
Okay.
Je n'ai jamais accepté d'être seul. La solitude, c'est la solitude, vous l'avez à la naissance et vous l'avez jusqu'à la mort. Quelle que soit votre famille, votre entourage, vous êtes incroyablement seul. Quand je quittais mes copains le soir, qui avaient trois frères et qui habitaient juste en face de moi, de chez moi, moi je rentrais dans un univers de solitude absolue, et dans l'autre, il y avait la joie, la possibilité de jouer aux Dinky Toys, l'enfance qui était épanouie, conflictuelle et vivante. Et ça, c'est inadmissible, être seul. Moi, j'arrive pas à le concevoir, c'est un truc. Je lutte contre ça depuis toujours. Mmh. Et les livres se font aussi grâce à ça. C'est des petites infirmités de luxe, hein. C'est pas, il y a rien de dramatique là-dedans. Mais ce sont des moteurs, ce sont des choses, je sais pas. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant les chiens.
Ouais, peut-être aussi, hein, j'allais vous le dire, figurez-vous. Ce père, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas montré à son enfant ce que c'était la tendresse, parce qu'il n'en avait pas. Il n'a évidemment pas montré à cet enfant ce qu'était l'amour. Cet enfant n'a pas vu l'amour avec ses yeux. Et il y a un passage dingue dans votre livre, L'origine des larmes, Jean-Paul Dubois. Je vous lis. L'amour s'apprend par capillarité, au jour le jour, en un goutte à goutte silencieux qui se délivre sous nos yeux. L'enfant apprend avec les yeux, en reniflant les molécules qui flottent dans l'air, quand il voit la main de son père caresser la nuque de sa mère, la bouche de sa mère embrasser le cou de son père. Quand il observe tout cela, il sait que c'est bien, que c'est bon, qu'on peut appeler ça l'amour ou comme l'on veut, mais que c'est agréable d'être avec quelqu'un qui un soir vous dit « Tu es mon amour, et moi le tien, ça tombe bien. » C'est ça, en fait. Il faut montrer aux enfants qu'on s'aime, en fait, Jean-Paul. C'est ça, c'est urgent.
Oui, bien sûr. C'est la base. Pardon, c'est la base. Tout passe par là, quoi. Tout l'équilibre, tout l'avenir passe par là. L'avenir d'un enfant, il se construit comme ça, par le regard, parce qu'il apprend, là. C'est la première école, ça. C'est... Je sais pas comment vous dire. C'est ce qui nous construit, c'est ce qui fait qu'on sera moins stupide plus tard et plus attentif.
Vous l'avez vu, vous ?
Oui, je l'ai vu, mais je l'ai vu encore une fois d'une façon qui est... Moi, ma mère m'a annoncé à 8 ans que mon père avait quelques semaines à vivre, et donc je l'ai vu... avec une intensité telle que la nuit, j'allais voir si mon père respirait encore et tout. Mmh. Et c'était d'autant plus grotesque que mon père a vécu 20 ans après cet épisode et que le médecin qui avait pronostiqué ça s'était complètement planté, quoi. Mmh. Donc, mais je ne pouvais pas le savoir, personne ne pouvait le savoir. D'accord. Mais... vous apprenez l'instantanéité, vous apprenez la fragilité, et vous apprenez la valeur de ces gestes-là qui ne sont plus du tout des gestes de la vie quotidienne, mais ça peut être chaque fois le dernier. Mm-hmm. Donc, sans rentrer dans le pathos et le ridicule, c'est une autre façon d'aborder le monde.
Ouais.
Et le temps qui passe, c'est-à-dire chaque heure peut être fatale. Donc, c'est un drôle d'apprentissage, quoi. Mm-hmm. C'est bizarre.
Jean-Paul Dubois, j'aurais bien parlé encore une heure avec vous, Jean-Paul. Jean-Paul Dubois, L'origine des larmes, c'est votre nouveau roman, hein, aux éditions de L'Olivier, vous l'avez bien compris. Il faut lire Jean-Paul Dubois et il faut lire L'origine des larmes. Merci Jean-Paul d'avoir été notre invité.
Ben merci à vous, c'était très agréable.
Merci beaucoup.
La première, 11h30, 13h. Entrez sans frapper.
Machin, machine. Hélène Maquet, pour un peu changer, Vous avez fait un nouvel achat.
Mais oui, nous sommes le 26 avril et comme chaque année, à peu près à la même époque, je fais le même achat, à savoir un agenda pour l'année en cours. Je me suis donc acheté un agenda 2024. Il est rouge, il est beau, il a un élastique, il est en cuir. Voilà, parce qu'en gros, mon année se divise toujours en trois grandes périodes. À partir de janvier, j'ai une philosophie qui dit « si je ne peux pas retenir tout ce que j'ai à faire, c'est que c'est trop ». Je répète ça en boucle à tout le monde et donc je n'ai pas d'agenda. Puis fin mars, je double book des soirées, je rate des rendez-vous, j'ai une prise de conscience. En vérité, si je m'en sors plus ou moins, c'est parce que d'autres personnes, dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, prennent en charge toute cette charge mentale. Coucou Ève, coucou Marie, coucou Baptiste, et me rappelle ce que je dois faire au fur et à mesure de ma vie. Bref, mi-avril, je me rends compte que c'est pas tenable, je m'achète un agenda que je remplis de ce que j'ai fait alors toutes les dernières semaines.
Ça sert à rien.
Ça sert à rien, mais ça me fait du bien. Je suis frénétique comme ça pendant quelques jours. En gros, donc j'en suis là aujourd'hui, comme toujours, à cette époque
ce que vous avez
de l'année.
Fait en janvier à avril.
Voilà, je mets, non, quand même pas, non, j'ai fait les deux dernières semaines, mais comme toujours à cette époque de l'année, je mets à plat mon emploi du temps et je me rends compte que ma vie est beaucoup trop remplie.
Est-ce que c'est un problème ?
Eh bien, je crois. Le problème, je ne pense pas que ce soit précisément le nombre de rendez-vous, le nombre d'actions à mener, d'obligations à remplir et d'activités de plaisir aussi, il faut le dire, à réaliser. Je dirais que c'est la manière dont le temps est organisé qui pose problème. Ça m'a sauté aux yeux en lisant un article du magazine américain The Atlantic cette semaine, que je n'ai bien sûr pas lu en entier, j'ai pas le temps pour ça, qui lit encore d'ailleurs des grands papiers en entier, mais c'est une autre question. Papier qui explique notamment comment le fait d'être overbooké et de prester de longues heures de travail est devenu un marqueur social. Pendant tout le XXe siècle, travailler peu était un signe extérieur de richesse. En 1899, un sociologue qui s'appelle Thorstein Veblen a écrit ce qu'il a appelé la théorie de la classe des loisirs, cette classe supérieure qui a accès aux loisirs. Son idée, en gros, en ce début de XXe siècle, c'est que plus on s'enrichit, moins on travaille et plus on a tendance à vouloir faire l'étalage de son temps libre.
Et aujourd'hui, ça a changé.
Oui, aujourd'hui, passer de longues heures au travail, être un workaholic, comme on dit, c'est valorisé. C'est ce qu'a mis en avant une chercheuse américaine qui s'appelle Sylvia Bellezza. Travailler de longues heures de travail et en faire la publicité est désormais plutôt une marque de prestige. En gros, les riches et les classes supérieures travaillent beaucoup et ils adorent ça. Et tout le monde dit d'ailleurs toujours qu'il est débordé. Sylvia Bellezza, elle a décrit ce phénomène en 2017 et je pense qu'il a encore évolué et qu'il englobe la vie professionnelle comme la vie privée, notamment après le Covid, où il s'est passé quelque chose de très important dans l'organisation de nos vies. C'est pas le confinement, parce que ça c'était ponctuel, mais l'énorme élan vers le digital dans l'organisation et la planification de nos vies. Peut-être plus encore que le distanciel, ce qu'il nous reste du Covid, c'est la réservation automatique de créneaux horaires.
Ouais.
Aujourd'hui, la plupart du temps, si vous allez au restaurant, chez le médecin, chez le dentiste, chez l'esthéticienne, au musée, si vous avez une réunion de travail pour réserver une voiture partagée, etc., vous allez bloquer un rendez-vous de manière automatisée à partir de votre smartphone.
Oui.
Il est même possible de faire apparaître automatiquement ce rendez-vous dans votre agenda sur votre smartphone. Au travail, des collègues peuvent consulter votre agenda pour réserver un créneau de votre temps pour une réunion.
Et en fait, notre emploi du temps est découpé en toute petite case.
Oui, c'est vraiment une vie de créneaux horaires sur lesquels on n'a pas toujours la maîtrise et qui laisse peu de temps au rien, au vide, à l'improvisation et au final, en vérité, à une certaine forme de vie de groupe. Je lisais justement dans The Atlantic cette semaine qu'on observe depuis les années 70 une diminution du temps passé en groupe, le fait de passer du temps en groupe dans des mouvements politiques, sociaux, sportifs, etc. Parce que nous avons de plus en plus, ou en tout cas, peut-être pas parce que, mais en parallèle, nous avons de plus en plus d'activités fragmentées, individuelles, avec un autre effet qui est peut-être un peu paradoxal. Aujourd'hui, si vous voulez réunir 10 personnes pour un souper, vous faites un doodle.
Ah non, refus.
Un sondage. Alors vous refusez peut-être, mais c'est quand même un mode d'organisation de la réunion de groupe qui est extrêmement répandu aujourd'hui et qui, de nouveau, génère des créneaux temporels. Chacun, parce qu'il a transformé son temps en données, peut voir si des rendez-vous se chevauchent et peut optimiser son horaire. auparavant, la personne qui lançait un souper disait ce sera à telle date, à telle heure, chacun de son côté faisait des choix. Si deux événements se chevauchent, on va là ou là, on ne cherche pas le créneau libre commun à tous les agendas. Ce qui peut expliquer que nous ayons des créneaux horaires occupés, parce que nous vivons dans cette illusion qu'en optimisant notre temps, nous pouvons tout vivre. Or, à 99%, je suis certaine que ce n'est pas la somme de ce que nous vivons qui nous rend heureux ou heureuse, mais la manière dont nous pouvons articuler les choses que nous vivons pour qu'elles prennent du sens. Dans ce cadre, un grand planning automatique n'est probablement pas la solution. Je ne donne pas cher de mon magnifique agenda d'ici l'été.
Pas sûr que ça va être un investissement rentable.
Je sais exactement comment ça se passe. Je sais tout à fait comment ça se passe. Ça va tenir jusqu'à à peu près mi-juin. L'été, je vais l'abandonner. Septembre, petit rebond. À la Toussaint, c'est fini.
Mais c'est pas ça la solution, de revenir à l'agenda papier? C'est pas ça qui va nous sauver?
Je n'ai pas la solution. La vérité, c'est que je n'ai pas la solution. Oui, je fais la même chose tous les ans.
Et nous n'aurons pas la réponse à cette question d'ici le journal d'Anne Goderno, si vous voulez. Dites, il est temps de se dire au revoir. Au revoir, Xavier Van Bugenhout.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Merci à Evians. Merci à Marie-Agnès Baupin. Merci à toutes et tous d'être fidèles à Entrer sans frapper. Je vous rappelle tout de même que lundi, si vous êtes à l'écoute d'Entrée sans frapper entre 11h30 et 13h, vous risquez de remporter un sublime cadeau, puisque lundi, entre 11h30 et 13h dans Entrée sans frapper, on vous invite au concert de Beth Gibbons. Mais c'est pas qu'un concert, c'est un showcase, toute petite salle dans un endroit dans Bruxelles. Elle va jouer rien que pour vous, rien que pour nous. Et donc, Beth Gibbons, leader de Portishead, bien évidemment, on vous offre les places ce lundi dans Entrée sans frapper. Anne Goderno pour les infos. Excellent week-end à toutes et tous.
La première, l'esprit clair. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.